Devine qui vient dîner. Lydia Gabor.
Comment vous faites pour rester zen ?
Comment je fais pour rester zen ? Ça, c'est une excellente question. Ben, tout simplement, je regarde la nature et puis je me dis que c'est fantastique. Et chaque jour, chaque moment, c'est super. Et puis, j'ai une vue superbe sur le lac aussi. Vraiment, ça, c'est absolument irremplaçable.
Vous ne pensez pas qu'il y a des endroits où on est plus heureux que d'autres ?
Ah, c'est une bonne question. Non, je pense pas. C'est un état d'esprit, on est bien partout.
Vous faites quoi dans la vie, monsieur ?
Oh là là, je suis expert comptable.
Comme quoi ? Tout est possible ! Merci.
De rien, au revoir.
Bonsoir et bienvenue à vous. Y a-t-il des endroits où l'on est plus heureux qu'à d'autres ? On reprend la question ce soir avec nos deux invités, puisque c'est un dîner d'esprit qu'on vous propose. J'ai devant moi deux philosophes. Jacques de Coulon, bonsoir.
Bonsoir.
On vous connaît déjà bien sur cette antenne. Vous êtes philosophe proviseur du Collège Saint-Michel à Fribourg et professeur. Vous enseignez la philosophie et vous signez un dernier opus intitulé « L'art de l'étonnement » aux éditions Payot. Un ouvrage où philosophes anciens, modernes, Koan Zen se côtoie en 365 pensées, une par jour donc, autour de la quête du mieux vivre sa vie. Est-ce que c'est juste ?
C'est tout à fait juste.
Alors, je vous pose la question, y a-t-il des endroits où l'on est plus heureux qu'à d'autres ?
Alors, je pense que le monde extérieur peut provoquer quand même un déclic. Alors, c'est clair que le bonheur, comme dit très justement le monsieur interrogé dans votre micro-trottoir, le bonheur est un état intérieur, c'est sûr. Comme diraient les philosophes stoïciens, il dépend de mes jardins intérieurs, de ma citadelle intérieure. Mais je pense quand même qu'il y a des endroits à l'extérieur qui peuvent réveiller et amener un certain calme à l'intérieur. Je ne sais pas, en plein milieu d'une ville, dans la circulation du soir, ce déclic sera plus difficile à provoquer qu'à l'aube, avec un beau lever de soleil sur la mer. Donc, je pense qu'il y a un rapport, une sorte de dialectique entre l'intérieur et l'extérieur, et qu'on ne peut pas totalement négliger le monde extérieur. Ou alors on est un grand maître de méditation, ce qui n'est pas mon cas.
Vous évoquez en début d'ouvrage la caverne de Platon, comme si on était enfermé dans une caverne où on voit que l'ombre de ce qui se passe à l'extérieur, de la réalité. Et donc, vous proposez quand même un chemin vers la lumière.
Alors, dans cet ouvrage, donc l'art de l'étonnement, effectivement, je propose un itinéraire à travers des pensées, mais pas seulement orientales, vous l'avez dit, des pensées orientales, mais aussi de philosophes occidentaux, un itinéraire on pourrait le comparer effectivement à la sortie d'une caverne. C'est vrai qu'on vit dans un monde de l'avoir, du faire, on vit dans un monde souvent artificiel devant nos écrans. On pourrait comparer les ombres dans la caverne de Platon au monde virtuel qui nous formate l'esprit trop souvent à longueur de journée.
Aux ombres des écrans. Oui.
Aux ombres des écrans, on pourrait dire. Et c'est vrai que je propose, à travers des auteurs qui m'ont marqué depuis de longues années, un itinéraire de sortie, pas à pas, par la méditation sur certains aphorismes.
On va voir différentes étapes dans cet itinéraire, mais je veux d'abord annoncer en face de vous, philosophe aussi, François Gachou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été professeur de philosophie, vous restez philosophe, vous êtes aussi journaliste puisque vous écrivez dans le journal La Liberté et La Gruyère.
C'est bien ça.
Comment on peut faire les deux ensemble, philosopher et puis être dans, qu'est-ce qu'on peut dire, dans l'éphémère le plus total que représente un journal ?
Ah ben je dirais que c'est très bien, dans la mesure où justement le philosophe n'est pas quelqu'un qui doit rester enfermé dans ses livres en parcourant souvent des pensées fort abstraites, laissées souvent aux soins des seuls universitaires. Et je pense au contraire qu'il faut faire passer l'importance des idées philosophiques qui concernent une manière de vivre, un art de vivre, dans notre vie. Alors, si je suis chroniqueur, par exemple, à La Liberté, pour les ouvrages philosophiques qui paraissent du moins les plus importants, puisque je peux faire mon choix, j'essaie justement de restituer ce qu'il y a de plus vivant possible et qui parle aux gens dans la chronique philosophique de La Liberté. Je fais ça une fois par mois sur un ou deux livres.
Alors, vous avez signé plusieurs ouvrages. Le dernier en date, c'est « La philosophie comme exercice du vertige », c'est aux éditions Serre. Je ne sais pas si la question est adéquate par rapport à cet ouvrage, mais est-ce qu'il y a des endroits où on est plus heureux qu'à d'autres ?
Je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où je crois que l'homme n'est pas séparable de son environnement, mais son environnement, il doit le chercher pour se sentir bien dans tel ou tel environnement. Par exemple, pour ce qui me concerne, là où je me suis toujours trouvé le mieux, c'était dans deux lieux. Dans un lieu où on peut méditer, dans le silence, alors ça peut être dans une église ou dans la nature. Et puis deuxièmement, comme j'ai fait beaucoup de montagnes et que j'aimais la montagne et ce contact assez solitaire avec la nature, il m'est arrivé, figurez-vous, de grimper durant la nuit sur un sommet pour voir le lever du soleil du sommet d'une montagne. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression de vivre la naissance du monde. Et je crois que chaque matin, le monde naît à lui-même. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un homme en face capable de contempler par son regard la beauté du monde qui est en train d'émerger. Et quand on est sur un sommet, c'est plus propice. Voilà.
C'est très beau, on a voyagé dans l'image avec vous. Alors tous les deux, François Gachou, Jacques de Coulon, comment vous êtes rencontrés ? Jacques de Coulon, comment vous l'avez rencontré ?
Ou alors François, je le connais depuis une bonne...
vieillir. Pas les chiffres.
Depuis très, très longtemps, nous nous sommes rencontrés grâce à notre amour commun d'âme philosophie, si j'ose dire. Et nous avons été non seulement collègues, mais également nous avons partagé aussi des livres, partagé des discussions, partagé, refait le monde.
Mais quelle impression il vous a fait au début ? Il était comment ?
Quelle impression il
m'a
fait ?
Oui, au début, il était un jeune homme, professeur de philo.
Moi, j'étais un jeune professeur de philo. Il m'a fait l'impression d'une personne qui était plus en avant que moi dans le chemin de la connaissance et de la sagesse. Il avait déjà à l'époque écrit un livre sur Maurice Clavel que j'avais beaucoup apprécié, et il m'a fait l'impression d'un chercheur et surtout d'une personne, vous l'avez, on l'entendra ce soir, maître des mots, maître au sens masculin de maître. C'est quelqu'un qui a une grande clarté d'esprit, qui sait exprimer sa pensée dans des mots. Et je trouve extrêmement important. C'est un homme à la fois de la parole, mais également de l'écrit. Et je pense qu'on ne peut pas élaborer une véritable sagesse ni une véritable pensée sans être maître du langage. D'ailleurs, François Gachou a aussi enseigné la littérature. Il a ces deux pôles qui vont travailler très bien ensemble, la philosophie et la littérature.
Alors vous, François Gachou, comment vous l'avez vu la première fois ?
Écoutez, d'abord, je me permettrai de dire que Jacques est un peu trop élogieux et je crois que c'est dû à un excès d'amitié qui me touche beaucoup. Comment j'ai connu Jacques de Coulon ? Eh bien, quand il est arrivé à Fribourg, après avoir fini ses études de philosophie donc à l'université de Fribourg, je l'ai rencontré tout simplement parce qu'on était professeurs tous les deux de philo. Dans les gymnases fribourgeois, il y a environ 15 à 20 professeurs de philosophie sur l'ensemble de tous les gymnases du canton. Et puis là, nous avons eu des réunions et puis j'ai découvert ses capacités de mettre à la portée de ses étudiants et même du grand public des pensées qui souvent sont fort difficiles à faire traduire. Et j'ai toujours admiré cette capacité qu'il a de mettre à la portée des pensées profondes. Parce que ce qui est profond est toujours assez simple, mais pour aller à cette simplicité-là, il faut décrypter d'abord la complexité des livres qu'on lit, et puis ensuite savoir les traduire. Alors ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui m'a aussi frappé chez Jacques, c'est ses qualités pédagogiques.
Donc il y en a un qui parle très clairement et l'autre qui parle à son public.
Alors je crois que Jacques a le sens de la pédagogie qui est très poussé. Et puis une ouverture d'esprit qui m'a toujours enchanté. Voilà.
Et de quoi parlent deux philosophes quand ils se rencontrent, comme dirait Brassens ?
De quoi parlent deux philosophes lorsqu'ils se rencontrent ? Mais écoutez, ça dépend du sujet du jour. On essaie simplement d'avoir un regard peut-être pas trop superficiel sur la réalité. Tous les jours, on parle politique, on parle...
Mais vous êtes un peu de la même école philosophique, parce qu'il y a différentes écoles.
Oui, J'ose répondre oui, parce que nous avons des
maîtres communs.
Des maîtres communs. Et j'en citerai un, et François sera d'accord avec moi, Emmanuel Lévinas. Nous avons les deux écrit, nous avons suivi ses cours, mais nous avons les deux écrit aussi sur Emmanuel Lévinas.
Alors Lévinas, en deux mots, pour ceux qui ne sauraient pas, donc il était professeur de philosophie à Fribourg.
À Fribourg. Et c'est un des plus grands philosophes du XXe siècle. Beaucoup de philosophes connus actuellement s'en inspirent, par exemple Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy ne seraient pas ce qu'ils sont, je crois que je peux m'avancer à ça,
sans Lévinas. Qu'est-ce qu'il dit en essence ?
Oh, moi je dirais que Lévinas a bouleversé la manière de concevoir la philosophie après Heidegger. Sans entrer dans des détails à propos d'Heidegger, je dirais que il a essayé de montrer finalement que le plus important en philosophie, c'est pas les problèmes qu'on appelle, disons, métaphysiques, et donc la spéculation abstraite sur l'origine de l'être, du monde, etc. Mais c'est la relation à l'autre. Il a donné à l'autre la primauté pour devenir soi dans l'aspect relationnel entre moi et l'autre. Et donc, il a appelé ça une perspective éthique du visage. Parce que Lévinas a fait des analyses phénoménologiques saisissantes et remarquables sur l'importance de la rencontre entre l'autre et moi-même, qui passe toujours par la reconnaissance du visage. Le visage, chez Lévinas, n'étant pas simplement l'image plastique,
esthétique
et physique de l'autre, mais au-delà, ce qu'il inspire en nous face à lui, c'est-à-dire une responsabilité. Entrer en contact avec l'autre, pour Lévinas, c'est d'une certaine manière naître à la responsabilité pour lui. Voilà, globalement.
Il a révolutionné la vision, même l'expérience qu'on peut avoir de notre personnalité profonde. Pour lui, le soi, c'est pas un noyau dur replié sur lui-même, bien qu'il soit important de trouver ce noyau.
Notre centre,
si je ne suis pas moi, qu'il sera, disait Lévinas depuis le Talmud. Mais après, Lévinas va plus loin. Et il dit, si je ne suis que moi, je paraphrase de Talmud, est-ce que je suis encore moi ? Sous-entendu, non. Parce que ce soi, au-delà de l'ego replié sur lui-même, il est, on pourrait dire, il porte sur lui l'autre. Il est tissé par l'autre. Il répond de l'autre. Et il est capable de dire, tout ce qui arrive à l'autre, c'est à moi que ça arrive. Et ça, pour moi, c'est vivant. Je veux dire, c'est pas une théorie. Hein.
Alors, je crois qu'on va juste s'arrêter là pour le moment. L'art de l'étonnement, c'est signé Jacques de Coulon. La philosophie comme exercice du vertige, c'est François Gachou. Nous passons cette heure ensemble. Ça va être très riche et très philosophique. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la première.
A newborn king to see, ba-ra-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, ba-ra-pa-pum-pum. To lay before the king, ba-ra-pa-pum-pum. Ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum. So to honor him, ba-ra-pa-pum-pum. When we come, little baby, ba-ra-pa-pum-pum. I am a poor boy too, ba-ra-pa-pum-pum. I have no gift to bring, ba-ra-pa-pum-pum. That's fit to give the king, ba-ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum. Shall I play for you, ba-ra-pa-pum-pum, on my drum? And lamb kept time, ba-ra-pa-pum-pum. I played my drum for him, ba-ra-pa-pum-pum. I played my best for him.
The Little Drummer Boy, c'est Iggy Pop, la voix de Iggy Pop sur Radio Suisse Romande, la première, où nous sommes en compagnie de deux philosophes, d'en avoir deux sous la main au même moment, c'est quand même extraordinaire, Jacques de Coulon, François Gachou. Je vais commencer par le début, c'est-à-dire le titre « L'art de l'étonnement ». En introduction, vous, l'autre titre, on parlera tout à l'heure, « La philosophie comme exercice du vertige », vous vous êtes donné le mot, parce qu'entre le vertige et l'étonnement, on se demande de ce que chaque chose va nous apporter. Alors, vous dites que dans le mot « étonnement », il y a « tonnerre ».
Absolument.
Il y a foudre.
Il y a tonnerre, il y a foudre. Qu'est-ce que c'est que l'étonnement ? C'est précisément être, avoir un coup de foudre, être bouleversé, sortir du train-train quotidien, sortir de la pensée unique, sortir des sentiers battus pour, comme dit le sous-titre, pour ouvrir son horizon. Je me permets de le lire, tout simplement. Et l'ouverture de l'horizon ne peut se faire précisément que parfois par ce bousculement, si j'ose dire.
Il y a un peu de ça dans le vertige ?
Oui, certainement, puisque Jacques vient d'employer un terme tout à fait clé, à mon avis, pour parler du vertige, c'est bouleversement. Dès qu'on a le vertige, on perd quelque part son équilibre, en tout cas au sens physique, et si on l'a au sens de l'esprit, on perd ses appuis, ses repères, on se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que je deviens dans la vie. Alors, je suis de ceux qui pensent qu'au fond, on peut se poser la question de l'étonnement comme du vertige à propos de tout acte philosophique possible, quelle que soit la culture, quels que soient ses contenus. Au fond, est-ce que tout le monde ne peut pas devenir philosophe et à partir de l'étonnement, qui est une condition, à mon avis, sine qua non, que déjà Platon et Aristote trouvaient nécessaire, mais peut-être aussi à partir d'un certain vertige. Cette idée de vertige m'est venue d'un grand philosophe danois qui est fondateur de l'existentialisme, il s'appelait Søren Kierkegaard, et dans son livre sur le traité de l'angoisse, il dit qu'au fond, le point de départ de la philosophie, c'est l'interrogation vertigineuse devant l'angoisse de vivre et devant l'angoisse de la mort.
D'accord, et face à ça...
Et l'étonnement provoque un questionnement.
Oui.
Ça me paraît
c'est très important
très
dans
important.
Ce livre, les questions
les
qu'on se pose.
Les questions qu'on se pose. Où on n'a pas forcément une réponse évidente. Par exemple, pourquoi il y a une question toute simple, mais qui nous met d'emblée face à la totalité des choses. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien, tout simplement ? Pourquoi suis-je né ? Ou bien, alors ça c'est un koan zen, quel était mon visage avant la naissance de mes parents ? Alors le but n'est pas forcément de trouver une réponse intellectuelle et mentale à la question, mais le but c'est précisément, d'abord, de sortir de l'évidence du café de commerce, si j'ose dire des discussions de café de commerce, pour, encore une fois, ouvrir peut-être de nouveaux circuits, de nouveaux... sortir de la boîte. On vit trop souvent dans une boîte de logique, de pensée toute faite, pour finir notre vie dans la boîte du tombeau. C'est un peu macabre, ce que je suis en train de dire, mais il y a trop de gens qui vivent un peu comme des morts vivants dans leur boîte. Et le but... que ce soit du vertige comme de l'étonnement et du questionnement, c'est précisément de voir qu'il y a d'autres dimensions que la boîte, que le carré.
Bon, alors ça c'est très joli dit comme ça, mais je vais essayer de donner un petit peu aux auditeurs une image de ce chemin. Donc vous parlez d'abord de se désencombrer. Moi pour imaginer les choses, imaginer aussi, des, comme je vous disais tout à l'heure, des éléments de, comme la terre, le feu, l'eau et l'air. Mmh. Parce que la nature est très présente aussi. Mmh. Donc, il faut se désencombrer, ensuite s'éveiller. Bon, moi, j'y ai vu le feu. Mmh. Ensuite, laisser être. Bon, j'y ai vu l'eau, parce que voilà, c'est un laisse élément qui englobe. Et l'air pour s'accomplir. Donc,
s'élever.
Voilà, c'est une sorte de clé que je me suis donné, des clés de lecture.
Absolument.
Maintenant, j'ai vu aussi que vous aviez des images, vous donniez des images. Il y a des images dans ce livre. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous parlez beaucoup de vous. Vous évoquez plein de situations de vie, des situations où on peut se retrouver un peu encombré ou pour ancrer le lecteur dans une expérience de tous les jours, de tout ce qu'on peut ressentir.
Effectivement, il y a 12 chapitres, mais l'essentiel, à mon avis, bon, il y a une introduction qui parle d'expériences que j'ai faites, par exemple, dans le Sahara, couché sous un ciel étoilé, où tout à coup, j'ai vraiment senti physiquement que ce ciel étoilé, c'était ma voûte crânienne. Et puis la terre, bon, c'est une expérience d'élargissement de la conscience. Et c'est pas intellectuel, ça. Et, mais c'est pas l'essentiel.
Vous aviez rien fumé, rien bu?
Rien fumé, rien bu. C'est difficile de boire beaucoup de choses dans le Sahara, vous savez. Non, absolument pas. Ce sont des expériences que je raconte. Il y en a une par chapitre. Alors, on va pas les détailler ici. Par contre, après, alors, à partir de cela, il y a évidemment une trentaine de pensées par chapitre qui prolongent cette expérience, mais je dirais ces pensées sont beaucoup plus profondes encore que mon expérience, parce qu'elles essaient de donner une clé à cette introduction.
Et puis à chaque situation. Dans l'introduction, vous parlez aussi du koan, on va y revenir.
Voilà.
Ce koan zen, ce ne sont pas les seules pensées, puisque vous avez aussi des pensées de philosophes actuels. Mmh. Mais quelle est la caractéristique de ce koan? Pourquoi il est un instrument finalement, on va dire, d'éveil?
Parce qu'il n'a pas de solution immédiatement logique. Je vous donne un exemple de koan, un des plus célèbres, par exemple. Ça peut être une question. Quel était mon visage avant la naissance de mes parents? Ça peut être une petite histoire. Je suis au bord d'un gouffre, cerné par un feu. Il me vient à l'esprit maintenant. Comment m'en sortir? Si je fais un pas en avant, je tombe dans le gouffre. Si je fais rien, je suis brûlé. J'ai même appliqué d'ailleurs ce koan dans une conférence que j'ai donnée pour des banquiers en disant c'est exactement la situation économique actuelle. Alors c'est une interprétation très
sauvage.
Sauvage. Ouais. C'est vraiment ça. Soit on a la fuite en avant de l'hyperconsommation, on tombe dans le gouffre, soit on a l'austérité absolue et on est brûlé d'une certaine façon, on peut plus rien faire. Et les sages, enfin les maîtres zen disent la seule solution, vous allez me dire comment, c'est de s'élever. C'est de sortir de nouveau de la boîte, hein, comme je disais tout à l'heure.
C'est la troisième dimension, même la quatrième. Oui.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot koan, en fait, vient du chinois kong an, qui veut dire attestation. Mais en fait, le koan, c'est une sorte d'attestation d'éveil. C'est une graine de méditation, c'est une phrase ou un petit conte sur lequel on médite, pas forcément en voulant absolument chercher une solution, mais en tout simplement, après avoir, ça m'arrive de le faire, après avoir pris conscience du corps, du souffle, calmer son, parce que la phase, je dirais, passive de la méditation, ensuite, on se répète cette phrase. Et puis, parfois, il n'y a rien qui se passe. Parfois, il y a tout à coup une lueur qui se passe. Alors, on peut citer des koans. Je ne sais pas, vous ouvrez là.
J'ouvre là. Moi qui m'a beaucoup plu, ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as.
Parfaitement.
Parce qu'en général, on cherche ailleurs, évidemment.
Oui.
Parce que si on qu'on a, on pense que ce n'est pas suffisant. On va donner aussi la parole à François Gachou, qui a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on pourrait dire que le koan crée comme une espèce de vertige. Il a parlé du désert. Est-ce que pour vous aussi, la nature est un lieu aussi de vertige et d'éveil?
Oui, c'est tout à fait possible. Ne serait-ce que l'expérience du vide. Je vous disais que je faisais beaucoup de montagnes auparavant. Et c'est vrai que le vide crée automatiquement une situation propice au vertige. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura nécessairement. Mais quand on éprouve ce vertige, il est évident qu'il y a un moment de déboussolement.
Mais il est nécessaire, ce moment. C'est ça que vous êtes en train de dire tous les deux, que ce moment est nécessaire.
Oui, parce que je dirais que c'est le lieu d'un éveil à soi à propos d'une question qui nous est posée, où on est nous-mêmes impliqués par notre corps, par notre esprit, dans la situation elle-même. Donc, on doit trouver une réponse nous-mêmes. Et moi, je pense qu'au fond, la philosophie est une activité comme manière de vivre à propos de ces situations existentielles. Et je prétends que tout le monde peut devenir philosophe à partir des expériences que l'on fait soi-même. Quand on se questionne, puisque l'étonnement est toujours à la naissance des questions, et moi j'ai essayé de vous montrer pourquoi et comment l'expérience du vertige, qui est peut-être un peu plus forte, un peu plus prononcée que l'étonnement simple, nous oblige à être vraiment au cœur de la question posée, nous accule en quelque sorte à rechercher une réponse. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver une réponse toute faite, et surtout pas théorique, mais une réponse par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Alors, c'est vrai que dans le livre, moi j'ai choisi quelques thèmes où j'ai essayé de montrer qu'on peut parler, par exemple, d'un vertige d'exister. Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je suis né? Qu'est-ce que c'est qu'être dans l'existence? Est-ce qu'il y a un être qui m'aurait donné naissance ou donné naissance au monde? C'est une question qu'on peut se poser, comme on peut aussi se poser une autre question. Pourquoi le monde existe-t-il alors qu'il aurait pu ne pas exister? Alors que j'aurais pu, moi, ne pas exister. Alors, si j'existe, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis bien obligé, dans cette espèce de vertige devant l'infiniment grand, l'infiniment petit, si on pense par exemple à la physique quantique, de me situer moi-même. Et on a le privilège, l'homme je crois a deux privilèges essentiels, c'est celui de la conscience de soi et du monde, et de la liberté. Donc il s'agit de faire le choix d'une conscience libre qui trouve des réponses à la question « comment ?», à la question « qu'est-ce que ?», à la question « pourquoi ? » Car évidemment, c'est autour de ces trois questions qu'on essaie tous de se situer d'une certaine manière. Alors, il y a plusieurs sortes de vertiges. Vertige d'exister, vertige de vivre, tout simplement. Qu'est-ce que c'est, au fond, la vie ? Et si on l'approfondit, est-ce que c'est pas quelque chose de très intérieur à notre subjectivité ? Le vertige du doute, évidemment. Qui ne doute pas de ses propres connaissances ? Et qui, à un moment donné, ne cherche pas derrière ses doutes une certitude qui lui donnera de pouvoir construire sa vie, construire sa relation aux autres, construire ses engagements professionnels dans la société. Vertige de la liberté, évidemment, si on pense simplement au printemps arabe, quel immense vertige de la liberté que personne n'avait prévu quand ça a commencé en Tunisie. Et finalement, ni les dictateurs en place, et Dieu sait s'ils avaient des pouvoirs, ni les chefs d'État occidentaux n'ont prévu ce gigantesque vertige de la liberté. Alors ne disons pas aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes pour mettre en place des démocraties, que ce vertige était vain. Non, ce vertige va dans une certaine direction, qui certes est pour l'instant problématique, mais ces choses mettront peut-être beaucoup de temps pour se mettre en place, comme ça a été le cas pour les démocraties occidentales, puisque depuis la Révolution française, il en a fallu du temps, jusqu'à ce que ces démocraties soient un peu plus assises.
Si je comprends bien, tous les deux, vous êtes très attachés à l'expérience, c'est-à-dire que vous avez un amour des idées et puis de les absolument exprimer, mais les deux, vous êtes très attachés à expérimenter.
Alors, François parlait du vertige. Moi, il y a une expérience qui est vraiment fondamentale et que j'ai souvent faite, c'est l'expérience de l'angoisse, une crise d'angoisse. Et j'en parle d'ailleurs dans ce livre, L'Art de l'étonnement. Lorsque vous avez une montée d'angoisse...
Bon, quelque chose de physiologique, c'est
quelque chose
physique.
À la fois de physiologique. Oui. Vous avez l'estomac qui se noue, vous avez l'impression que plus rien n'a de sens.
C'est très fréquent, hein, dans notre société.
C'est fréquent dans notre société. Et là, honnêtement, c'est une expérience qui provoque justement un basculement, qui provoque, d'une certaine façon, un éveil. Pour autant qu'on soit capable de quitter la lutte contre l'angoisse, parce que si vous luttez contre l'angoisse, ou si vous, alors vous engloutissez dans l'angoisse. Et au bout d'un certain temps, j'ai compris que faut laisser passer l'angoisse, faut l'observer tout simplement. Pour tout, d'ailleurs, comme pour
ça,
toute
émotion,
c'est
déjà un certain niveau de maîtrise, parce qu'on a envie de fuir. On a envie de fuir.
On a envie de fuir ou au contraire de l'éliminer.
Oui.
Et lorsqu'on essaye de fuir ou de l'éliminer,
elle
vous colle à la peau, et il faut à ce moment-là être capable de trouver en nous une montagne intérieure, pour reprendre le terme de François Gachou tout à l'heure, il parlait de la montagne, et je crois qu'on a cette montagne intérieure, et là, alors, vous avez des textes magnifiques.
Mais
par exemple,
le cône,
moi je vous en donne un, je le sais par cœur, les eaux du fleuve n'ont pas emporté le reflet de la lune. C'est un koan zen magnifique. Alors, les eaux du fleuve, on pourrait dire, Il faut les laisser couler. Si on s'accroche au fleuve, à la limite, on est emporté par l'angoisse. Alors, ça peut être détritus sur le fleuve, l'angoisse. Non pas emporter le reflet de la lune, c'est être capable de, justement, de monter sur cette montagne intérieure pour contempler notre ciel intérieur en laissant passer.
Mais à propos de
ça... En laissant passer les souffrances, mais également, peut-être en choisissant alors des moments plus heureux, en disant « là, je plonge », mais là, je plonge pas. C'est cette liberté intérieure que la méditation sur le koan donne. Cette liberté à la fois de laisser passer et de retrouver le reflet de la lune en nous.
Alors, moi, j'ai très envie, avant de passer à un prochain disque, que vous racontiez l'histoire du samouraï qui entendait miaou.
Ah, mais ça, c'est extraordinaire.
Donc, je l'adore, cette histoire. Je trouve qu'elle va très bien pour l'angoisse.
Vous voulez que je la lise ou bien que
non,
je la raconte?
Racontez-la.
Alors, je la raconte de mémoire. C'est un samouraï qui souffrait non pas d'une angoisse, lui, mais d'une obsession. Il entendait sans cesse en lui-même des miaou. Il va trouver un maître. Et puis, il lui dit, mais comment faire, maître, pour que mon obsession disparaisse, mon obsession des miaou disparaisse? Et puis, le maître lui dit, ben, c'est extrêmement simple, tu te fais harakiri.
Tu meurs, c'est-à-dire tu meurs.
Tu te fais harakiri. Et le samouraï prend son épée, prêt à se faire harakiri. Et puis le maître lui pose la question, est-ce que vous entendez toujours vos miaou maintenant? Puis le samouraï dit, non, j'entends plus. Et le maître dit, alors il n'a plus besoin de vous faire harakiri.
Nothing but a dirty, dirty old man. You do your thinking with a one-track mind. You keep talking about heaven and glory, but on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. Something to tell you, baby, that you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. You slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say. I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing.
upon a big stool. Nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is a famous generation. What's in your head has really started showing. Your conversation is getting kind of boring. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito street. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old game, same old thing. You never change. Same old game, same old thing. Always rapping about the same old thing.
Funkier than a mosquito, Nina Simone sur Radio Suisse Romande, la première. Et je vous propose une histoire un peu zen racontée par l'écrivain Christian Bobin.
Je demande au vendeur, je lui dis, est-ce que vous savez comment on peut se débarrasser le plus efficacement de souris qui vont dans les maisons? Est-ce que vous avez des pièges ou des produits? Et là, je découvre quelqu'un de très écologiste. Et qui me dit, oui, j'ai quelque chose, mais c'est pas bien de les faire souffrir. Et puis j'ai même quelque chose qui permet de les laisser vivantes et que j'ai expérimenté chez moi. Pendant plusieurs matins, j'ai eu une souris qui était prise dans la cage. Je la mettais dans ma voiture et je l'emmenais un peu plus loin. Et il me dit, j'ai capturé comme ça jusqu'à 14 souris. Et après, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus personne. Le chiffre 14 m'a effrayé et réjoui. Et par plaisanterie, je lui ai dit, mais vous les mettez un peu plus loin, mais où? Il me dit, il faut les mettre à distance quand même pour qu'elles ne reviennent pas. Elles peuvent retrouver leur chemin, elles risquent de revenir à la maison. Donc, je prends ma voiture, je fais 4 kilomètres. J'ai regardé le monsieur en mimant la sévérité, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous n'habitez pas par hasard à 4 kilomètres de chez moi? Mais le chiffre 14 m'a fait rêver durablement jusqu'à aujourd'hui. 14 souris prises une par une, dans une cage, vivante, emmenées avec tous les soins qu'elles demandent, en voiture. 14 souris avec un chauffeur humain. Ça fait 60 ans, ça fait presque 60 ans que je cherche à distinguer cette vie d'un conte de fées. Et je n'y arrive pas. Et je n'y arrive pas.
Voilà ce très beau conte, bien raconté par Christian Bobin. Je pense qu'il illustre bien quand vous parlez de l'émerveillement devant la vie, qui fait partie de, entre guillemets, l'éveil à sa propre vie. Je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique avec ces petites souris et puis ce monsieur qui peut avoir l'air inutile, mais c'est tellement poétique.
Et on a besoin aujourd'hui de pensée poétique, de pensée autre que la pensée planificatrice, calculatrice, les chiffres qui nous trottent dans la tête.
Ça fait partie de ce que vous dites dans l'art de l'étonnement.
Dans l'art de l'étonnement.
De s'arrêter un moment et regarder.
S'arrêter un moment, regarder. Et pour revenir à l'histoire du samouraï, c'est vivre
qui
entendait des miaou, qui était obsédé par ces miaou. Une façon de se débarrasser de ses obsessions, c'est d'être pleinement conscient du moment présent. Alors là, le lieu, évidemment, est peut-être important, se promener dans une forêt en étant dans ses sensations plutôt que dans ses obsessions futures ou passées. Il y a un très joli koan qui résume tout ça, qui dit « Le soleil de midi ne fait pas d'ombre ». Ça veut dire quoi? Le soleil de midi, c'est cette pleine conscience du présent. Les ombres, elles peuvent soit être en avant parce qu'on se fait du souci pour demain, soit être en arrière parce qu'on regrette ce qui s'est passé. Et les obsessions, c'est toujours dans les ombres. Les angoisses, c'est toujours dans les ombres. Comment être sous le soleil de midi? That is the question.
Est-ce que le vertige, ça serait une façon d'être sous le soleil de midi?
Oui, ce que vient de dire Jacques me fait penser à Albert Camus.
Dont... La chute?
Non, pas la chute, mais le contraire. C'est-à-dire la pensée de midi. Il appelait cette pensée qui lui était chère, notamment traitée dans L'homme révolté, et puis à propos de l'absurde et à propos de son roman La peste, n'est-ce pas, la pensée de midi, c'est-à-dire une pensée solaire qui illumine parce qu'on a su sortir de l'absurde et à un moment donné trouver un lieu d'émerveillement.
Mais l'absurde dans le sens de manque de sens.
L'absurde dans le sens de manque de sens, bien entendu, parce qu'on supporte très mal le manque de sens. L'homme est un être qui ne cesse, même sans s'en rendre compte, d'avoir besoin de trouver du sens, y compris dans les actes les plus quotidiens. Et quand ces actes quotidiens deviennent symboliques, comme dans l'histoire du samouraï, alors, dans cette symbolique même, on peut trouver du sens. Et l'histoire de Christian Bobin et des souris est très poétique et en même temps profonde, parce que elle suggère le prix de la vie quelque part, et de la liberté.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Jacques de Coulon ?
Oui, peut-être. Pour retrouver du sens, il faut souvent, et je le dis d'ailleurs dans ce livre, balayer les anciennes pensées comme les feuilles mortes. Il faut, d'une certaine façon, revenir, alors par exemple, à cette plénitude de l'instant présent. François a écrit un magnifique livre sur la montagne, Sagesse de la montagne, et ça peut être une expérience qui nous ramène au présent. Quand vous êtes, c'est comme le samouraï sur le point de se faire harakiri, quelqu'un qui est en haute montagne, qui est sur une crête, il est ramené à la limite de force, hors de ses obsessions, et dans le moment présent, sous le ciel, il doit faire attention, il doit être pleinement attentif au moindre de ses gestes. Mais François peut en parler beaucoup mieux que moi. Mais c'est vraiment, c'est une manière de sortir des ornières, d'être dans le présent, pour ensuite trouver peut-être un sens nouveau à son existence. C'est ce que tu dis dans ton livre.
Je vois que tous les deux, vous avez un aspect très contemplatif. Très argumentatif, parce que vous êtes philosophe, donc vous connaissez très très bien toute cette mécanique, mais vous êtes contemplatif aussi.
C'est contemplatif, mais c'est aussi très concret, puisque tu prends l'exemple de la montagne, Jacques, je me permettrai d'ajouter simplement ceci. Lorsque vous gravissez un sommet, surtout si c'est des heures de marche, il y a l'effort physique. Vous êtes nécessairement dans l'effort physique complètement immergé, présent à votre corps qui monte, mais qui monte vers où ? Il est évident que le sommet, le point culminant que vous voulez atteindre, prend du sens dans la mesure où votre corps est l'instrument qui est en même temps vous-même, par lequel vous vous hissez jusque-là. Mmh. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que l'effort produit avec cette intensité-là provoque deux choses. L'expérience d'une sorte de liberté délivrance, quand l'effort est fini, on atteint ce point oméga ou culminant qu'on a voulu chercher, et on éprouve intérieurement la satisfaction, pas d'un plaisir, je vais beaucoup plus loin, d'une joie. Pourquoi ? Parce qu'on a construit quelque chose avec son être propre, et par le physique évidemment.
Vous voulez dire parcourir cette
distance. Par les sensations, mais aussi par la présence au monde, et par la conscience. Donc on a une espèce de convergence de différents niveaux de notre être, qui tout d'un coup trouve une sorte d'unité, couronnée par cette espèce de joie assez indicible, car il est, à part la poésie, comme on disait tout à l'heure, il est difficile d'exprimer la joie par des mots. Et c'est d'une intensité qui vous porte. Quand on parle de contemplation et d'élévation, on a une certaine intensité intérieure. Alors, ce qui est curieux dans le phénomène physique de la montagne, c'est que cette intensité et cette intériorisation est provoquée par un effort physique, voire même par la souffrance d'une marche difficile.
Bon, c'est physiologique.
Alors, oui.
Il y a la respiration, l'oxygène, les endorphines.
Nous n'avons pas un corps, nous sommes dans un corps pour aller vers l'esprit. Mmh. Et donc le spirituel me paraît très lié à la condition aussi physique de notre être, en ce sens-là. Et puis il y a le retentissement évidemment psychologique. Quand Jacques disait, bon, il faut balayer nos pensées obsessionnelles, c'est ce que je voulais dire quand j'évoquais une sorte de délivrance de nos soucis, de nos charges, de nos fatigues journalières, par ce genre d'exercice, mais il y en a d'autres, évidemment.
Oui, bien sûr.
Je peux vous citer un Coran qui m'a beaucoup plu dans votre livre. Alors, l'élève demande, la lumière est-elle une onde ou une particule ? Et le maître répond, oui.
Parce qu'elle est les deux. C'est un Coran, mais c'est tout simplement tiré d'un ouvrage d'un grand physicien qui s'appelle Capra, où il dit la lumière est à la fois une onde et une particule. Et là, on voit vraiment qu'on dépasse l'antinomie onde-particule pour un esprit carré et logique.
Mais c'est ça que j'aime bien. Il a répondu oui aux deux.
Aux deux.
Dans le sens plus de dualité.
Il y a plus de dualité, exactement.
Et la science le confirme, c'est ça qui est intéressant. La science le confirme. Parce que finalement, ce qu'Einstein a découvert, c'est aussi dans le domaine de la relativité, que l'énergie est équivalente à la matière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'énergie se transforme en matière.
Mais ça, c'est un vertige, par exemple, pour moi.
Oui,
c'est un vertige.
C'est un immense vertige qui a embrasé l'univers entier depuis le Big Bang. Parce que qu'est-ce que le Big Bang, sinon l'explosion initiale de toute l'expansion de l'univers à l'infiniment grand, mais contenu dans l'infiniment petit microscopique d'une toute petite quantité d'énergie calculée par Max Planck. C'est absolument vertigineux.
François Gachou, le titre de votre ouvrage, La philosophie comme exercice du vertige, c'est aux éditions Serre. Et Jacques de Coulon, L'art de l'étonnement, c'est chez Payot.
Trois jours pour monter sur une scène seule, une vie pour toucher la lumière, un siècle pour faire fondre les pôles, une heure pour t'écrire une chanson. 36 ans pour te décider à faire de moi ton accident, et aussi ton premier bébé à venir chambouler tes plans. Être conçu sous LSD, c'est forcément un peu trippant, mais cet instant d'éternité a fait de moi ce bel enfant. Trois jours pour monter sur une scène seule, une vie pour toucher la lumière, un siècle pour faire fondre l'épaule, une heure pour t'écrire une chanson. 26 ans pour te voir, papa, comme un chercheur de vérité qui n'a jamais baissé les bras et jamais fini d'en trouver. Y'a Séraphine, y'a Séraphin qui se rappelle encore de Kikou et de Zazie dans le lointain à Coco sur un lion roux. Trois jours pour monter sur une scène seule, une vie pour toucher la lumière, un siècle pour faire fondre l'épaule, une heure pour t'écrire une chanson. 63 ans pour être là, Gaga, devant Monsieur Timour, plus doux, plus rieur qu'autrefois, et avec des fleurs tout autour. Si on me demande aujourd'hui de citer des noms sur la terre, de ceux de mes meilleurs amis, à tous les coups, j'inclus mon père. Une heure pour t'écrire cette chanson, la lumière, trois jours pour monter sur une scène seule.
Trois jours sur Radio Suisse Romande, la première, où nous parlons encore philosophie pour quelques 10 minutes. Et comme j'aime bien fouiner dans l'art de l'étonnement, je suis partie de la pensée numéro 1 qui nous dit vous désirez être rempli, mais ce qui est plein doit d'abord être vidé. Videz-vous de façon correcte pour pouvoir vous remplir correctement. Ça, c'est la 1. Et la 365, c'est Dieu entre de préférence en toi quand tu n'y es pas.
La boucle est bouclée.
C'était ça que vous vouliez dire.
Mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est ce Dieu, justement? Alors, est-ce que c'est une source de présence qui ne peut jaillir que quand elle est déblayée, quand elle n'est pas recouverte par un tas de pensées parasites, par un tas de pensées conformes, par un tas d'obsessions, si
j'ose dire. Mais vous vous rendez compte, on met des dizaines d'années dans notre vie pour apprendre des choses et acquérir des compétences, et après, il faudra se vider de tout ça.
Mais se vider au sens, ça veut pas dire, c'est se vider pour se renouveler. Et l'étonnement provoque, le vertige, l'émerveillement, le questionnement provoque cette remise en question et ce grand nettoyage de notre miroir intérieur. Moi, j'aime bien une image qui nous vient du taoïsme, dont je parle d'ailleurs là-dedans, qui est l'image de la roue. La roue Et Lao Tzu dit, c'est le moyeu, grâce au moyeu vide de la roue, que la roue peut tourner, que notre vie peut tourner. Tout est, en fait, agencé autour de cette source intérieure, de cette flamme intérieure, de cette source de présence. Et j'ajoute, en repensant à Lévinas, source de présence et source d'amour qui s'ouvre vers l'autre. Si vous voulez vous ouvrir à l'autre, vous ne pouvez pas vous ouvrir.
Être plein.
Si vous êtes complètement encombré, vous ne pouvez accueillir personne. Hein. Si votre chambre est totalement encombrée, vous devez d'abord faire de la place.
Des réactions à ces belles pensées.
Je trouve qu'on
François
est très
Gachon.
Proche de ce que j'ai essayé d'exprimer dans un chapitre Vertige d'aimer. Mm-hmm. Parce que je crois qu'à partir, disons, en tout cas de Platon, mais il y a beaucoup d'autres philosophes qui ont parlé magnifiquement de l'amour et de manière assez vertigineuse parfois. S'il n'y avait pas en nous ce vide au sens d'un manque profond, nous ne désirerions sans doute pas aller vers l'autre, parce que l'autre détient la clé, et je dirais le secret de ce que nous cherchons. Et ce qu'il y a de très vertigineux dans l'amour, c'est que tout d'un coup, on oublie cet amour de soi qui nous accompagne tout le temps, et de manière peut-être privilégiée, mais en tout cas légitime, et tout d'un coup, on est projeté vers un autre qui nous donne sens à nous-mêmes, alors qu'on aurait pu croire qu'on se suffisait à nous-mêmes. Et l'amour a ceci de merveilleux qu'il est la clé de, non seulement de la relation avec autrui, mais la clé de la découverte de soi. Parce que l'autre nous aide à être mieux nous-mêmes. Et donc, ce vide et ce manque devient une nécessité pour nous remplir. Que désire l'amoureux, sinon être comblé par le fait qu'il est aussi aimé en retour? Et évidemment, si l'amour n'est pas réciproque, on souffre. Ce qui prouve bien qu'en fait, la communion fait partie intégrante de la définition même de l'amour.
Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la philosophie, Jacques de Coulon? Le goût de philosopher,
le goût de la philosophie, voilà, le goût de l'amour, de la sagesse. Je parce que c'est quoi la philosophie? Qu'est-ce qui m'a
donné? Non, mais il y a plein de gens qui n'ont pas ce goût de philosopher, de chercher, de lire des phrases qui nous font réfléchir. À quel moment vous avez découvert ce plaisir? C'est un plaisir aussi.
Un plaisir, c'est vrai. À un moment donné où j'ai voulu approfondir tout simplement.
Mais vous étiez malheureux, mais... faisant un peu de psychologie accessible. Vous aviez un manque.
J'avais un manque, oui. J'avais un manque que j'étais instituteur. Et puis j'avais envie d'approfondir. Et d'approfondir certaines expériences d'ailleurs que j'avais faites. Je comprenais pas pourquoi tout à coup. J'avais par exemple, je reviens, de l'angoisse. Ou par exemple, tout à coup, pourquoi j'avais une vision où l'espace était à l'intérieur de moi et moi j'étais plus dans l'espace. Qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça? On découvre que Kant dit la même chose, mais il le dit beaucoup mieux. Je voulais essayer de chercher, en quelque sorte, des raisons de vivre. Et je pense que c'est le propre de tout homme. Plutôt que d'avoir une carrière bien tracée dans l'enseignement, etc., j'ai voulu prendre un moment pour me pencher sur des philosophes. Puis j'ai continué, j'en ai fait. Après, ma profession, si on peut dire une profession, mais on n'a jamais fini de philosopher. C'est une asymptote, on s'approche. Le philosophe n'est pas un sage, hein, je tiens à le dire. C'est un amoureux philo, j'aime Sophie. Hein.
j'aime la sagesse.
J'aime la sagesse.
Et François Gachot, vous, qu'est-ce qui vous a donné ce goût?
Bien, moi c'est le vertige du désir perpétuel de l'homme de trouver son accomplissement alors même qu'il ne le trouve jamais complètement. Autrement dit, nous ne pouvons pas cesser de désirer, et de désirer quoi? Alors on peut dire le bonheur, on peut dire le plaisir, etc. Mais désirer, c'est comprendre que l'homme est cet animal qui ne peut pas se contenter de sa programmation biologique, physiologique, mais qui a tout le temps besoin de construire lui-même sa vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est libre. Mais s'il est libre sans avoir ce moteur, cet élan intérieur du désir qui ne cesse de fonctionner, il ne peut pas avoir de but. Parce que le désir est un moteur stimulant au sens où lui seul nous projette vers un bien qui peut nous satisfaire, mais on en cherche un autre qui peut nous satisfaire, on en cherche un autre encore. Et l'homme peut découvrir que le désir est inscrit en lui de manière innée pour aller vers quoi ? Vers un désir d'infini, vers un désir d'éternité. Si aujourd'hui on nous disait « les hommes n'ont plus besoin de mourir », je parie que toute l'humanité serait d'accord pour dire « on arrête là puisqu'on va entrer tout de suite dans l'éternité ». Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Ce qui prouve bien
on a tendance aujourd'hui un peu à oublier qu'on est mortel. Et d'ailleurs, ça ne nous profite pas au niveau de la conscience.
Certainement. Je ne veux pas nier qu'il y ait un vertige de mourir, parce que tous devant la mort, nous avons une angoisse, précisément parce que nous désirons vivre, parce que nous sommes faits pour désirer vivre. Alors, pour moi, le désir est l'indicatif de la question de Dieu, c'est-à-dire d'un absolu qui, s'il existe, pourrait remplir ce que nous cherchons tant, c'est-à-dire l'appétit du bonheur, tout simplement.
Je vois que vous êtes en pleine forme, vous deux. Hein.
pour résumer ce qu'il dit, on peut dire avec Pascal, l'homme passe infiniment l'homme.
C'est voilà. Très beau, c'est ça, redites-le.
L'homme passe ou dépasse infiniment l'homme. Bon. C'est le propre de l'homme, c'est de se dépasser sans cesse, de s'élever.
C'est très très beau. Merci beaucoup messieurs. Vous donnez un peu d'espoir et du sens à tout ça. Je rappelle le titre de vos ouvrages, L'art de l'étonnement, Jacques de Coulon. C'est aux éditions Payot, 365 pensées, on en a une par jour. Et François Gachou, La philosophie comme exercice du vertige. Merci beaucoup à tous les deux. Une de belles fêtes.
Merci à vous beaucoup. Également.
Alors, il y avait Kim Tanguay ce soir en régie. Nathalie Schaumberg a choisi les musiques. Et Karine Delphini va vous raconter de belles histoires juste après les infos. Heures sur la première. Belle soirée à vous.